franceinter.fr.
Et la question de l'apparition de la vie sur Terre, cette question est d'autant plus dure à traquer qu'elle est ancienne et encore plus si elle se cache. Une nouvelle publication renforce une théorie récente selon laquelle la vie complexe avec les organismes multicellulaires soit apparue très tôt, il y a plus de 2 milliards d'années, et puis qu'elle se soit tenue cachée pendant plus d'un milliard d'années avant de prospérer à nouveau dans les conditions et lorsque les conditions sont devenues favorables. Alors pour commenter ce travail américain fait exclusivement en étudiant des roches, nous sommes au téléphone avec vous, Christophe Tomaso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géochimiste et maître de conférence à l'université de Bourgogne. Expliquez-nous d'abord pourquoi, pour traquer les formes de vie complexes dans l'histoire de la Terre, ces chercheurs se sont intéressés à l'oxygène de l'atmosphère.
Alors, on regarde l'oxygène de l'atmosphère parce qu'on sait que ces formes de vie complexes sont des formes de vie qui possèdent des cellules eucaryotes et qui réalisent le plus souvent un métabolisme de type hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'oxygène pour se développer. Et donc, avoir une contrainte sur la quantité d'oxygène, ça nous donne une information indirecte sur quand les organismes multicellulaires ont pu apparaître sur Terre.
Alors, on sait que l'oxygène a fortement augmenté dans l'atmosphère il y a 2,3 milliards d'années, puis a diminué, puis de nouveau augmenté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comprendre que la vie complexe est apparue, a disparu, puis est réapparue à nouveau ?
Alors, on pourrait être tenté de l'interpréter comme ça. On n'est pas vraiment sûr de ce scénario. Ce qu'on arrive bien à comprendre, c'est qu'en effet, la quantité d'oxygène a augmenté fortement il y a 2,3 milliards d'années, puis un peu plus fortement que ce qu'on pensait finalement, et rediminué. Alors du coup, on a une fenêtre de cette quantité d'oxygène qui aurait pu permettre l'apparition de la vie multicellulaire. Après, quand ça a diminué doucement, on ne sait pas si la vie multicellulaire a complètement disparu ou si finalement elle s'est juste cachée dans des environnements où c'était encore possible. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la pression environnementale a dû être très forte, très rapidement, en fait, après cette première augmentation de la concentration d'oxygène.
Et comment on explique justement ces fluctuations de l'oxygène ?
C'est pas encore très clair. Ce qu'on pense, c'est que c'est très lié à la façon dont le cycle du carbone fonctionne. En fait, il y a un lien très fort entre la quantité d'oxygène et le cycle du carbone. Et en particulier, à cette époque, on sait qu'on a préservé beaucoup de sédiments très riches en carbone. Et quand on préserve beaucoup de carbone dans l'enregistrement géologique, on sait qu'on favorise l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère.
À part les indices liés à l'oxygène, est-ce qu'on a d'autres preuves qu'il y avait de la vie complexe avant 2 milliards d'années sur la Terre ?
Alors oui, on a pas mal de preuves. C'est rarement des indices directs parce qu'on a du mal à observer des organismes de cet âge. Ces roches sont très anciennes, elles ont subi tout un tas de processus géologiques. En revanche, on a des indices indirects. Ça peut être des bioconstructions. Alors on a les stromatolithes qui sont un des grands exemples emblématiques. C'est un peu l'équivalent de la coquille des bivalves actuelles, mais sous forme de roche. Et puis on a tout un tas de marqueurs qui sont également indirects, chimiques.
Si jamais la vie complexe multicellulaire, comme vous le dites, n'a pas disparu au moment où l'oxygène a diminué, qu'est-ce qu'elle est devenue à ce moment-là ?
Ça, c'est très difficile à dire parce qu'on a du mal à l'observer. On n'est déjà même pas bien sûr qu'elle ait existé à cette époque. Ce que dit cette publication, c'est que les conditions étaient réunies pour, mais on ne sait pas si elle était là vraiment. Si elle a existé, on peut imaginer qu'elle soit dans des niches écologiques qui sont très réduites pendant un laps de temps assez long.
Ces stromatolithes, là, on les trouve dans quelle région du monde, Christophe Tomaso ?
Alors, ces stromatolithes, on en trouve à peu près sur tous les boucliers géologiques qu'ont cet âge-là, les boucliers très anciens. C'est la période géologique qu'on appelle l'Archéen. On va les voir principalement. Alors, ils ont été beaucoup décrits en Australie.
Oui.
En Afrique du Sud, au Canada et récemment
au Groenland.
Ouais. Tout à fait, a été suggéré des stromatolithes très vieux qui dateraient de 3,7 milliards d'années, ce qu'en fait des indices qui sont extrêmement vieux par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Ouais. On garde toujours le conditionnel sur ces datations même.
Sur les datations, il y a une marge d'erreur qui pour ce genre d'objet peut aller jusqu'à la centaine de millions d'années. Mais bon, là, ce n'est pas l'échelle de temps qui nous intéresse, parce qu'on est dans le milliard, finalement.
Ouais.
En revanche, là où on est le plus précautionneux, c'est sur l'interprétation des structures qu'on observe. Ce n'est pas facile, je vous l'ai dit, il n'y a souvent pas d'indices de biologie, il y a peu de matière organique dans ces échantillons. Pas toujours bien sûr que d'autres processus qu'on ne connaît pas, parce qu'ils n'auraient pas d'équivalent dans la géologie actuelle, ait pu produire ce type de structure. On part toujours du principe en géologie de l'actualisme, mais quand on remonte le temps aussi loin, les conditions étaient quand même très différentes, donc l'actualisme peut avoir ses limites.
Est-ce qu'on sait à quoi ressemblaient, ou est-ce qu'on peut imaginer à quoi ressemblaient les premières formes de vie complexes visuellement, on peut se les représenter ?
Non, c'est difficile. Alors en revanche, toujours dans l'enregistrement géologique, il y a quelques années, a été publié et proposé des formes de vie multicellulaire dans des roches, dans des affleurements géologiques au Gabon, dans la formation de Franceville. Et les formes qui sont proposées sont des petits disques de quelques centimètres qu'on fait penser rapidement à des méduses. Alors, c'est absolument pas des méduses, hein, bien entendu, mais ça pourrait ressembler à, morphologiquement, à ce genre de choses. Mais bon, après, la morphologie, le lien entre la morphologie, le métabolisme, les fonctions, même dans le monde animal actuel qu'on peut décrire, on a souvent du mal à le faire. Alors, dans un registre aussi lointain, c'est difficile.
On est quand même très précautionneux, hein, et il n'y a pas grand-chose, en fait, qui permette d'avoir des affirmations. Hein.
Bon, alors, c'est la science.
Oui, la science des tout débuts de la vie, oui.
Et on est très précautionneux. Alors, on est très précautionneux sur les grandes interprétations et sur la façon dont la vie a pu évoluer. Par contre, il y a des choses qu'on maîtrise quand même beaucoup mieux, hein, sur la chimie en détail, sur comment la vie va fractionner les différents éléments chimiques, comment est-ce que ça, on a des contraintes un peu plus fortes, et aussi parce qu'il y a de la théorie derrière, il y a de la thermodynamique, il y a de la chimie organique, il y a des choses comme ça. Là, quand on parle de choses aussi lointaines, on n'a pas forcément les outils théoriques aussi pour bien mettre en musique les informations qu'on observe.
Qu'est-ce qui pourrait permettre aux scientifiques de trancher au final entre une simple ou une double, si je peux le dire comme ça, apparition de la vie complexe dans l'histoire de la vie ?
Comme marqueur direct, des fossiles de très bonne qualité pourraient déjà nous indiquer ou nous certifier qu'on a des unités cellulaires à plusieurs dates. Et après, est-ce que ça a été inventé plusieurs fois ? C'est assez compliqué de répondre à cette question. C'est très compliqué.
Donc on tâtonne et on n'a toujours pas notre réponse, au fond.
Ouais, mais ceci dit, je vais reprendre une citation de Stephen Jay Gould, mais si on rembobine le film de la vie et qu'on le relance, il sera probablement très différent. Donc c'est toujours compliqué de faire cette démarche de tout rembobiner et de se dire est-ce que c'est apparu plusieurs fois, pas plusieurs fois, dans quelles conditions. C'est pas évident.
En tout cas, merci beaucoup pour ces informations et ces éclairages, Christophe Tomaso. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une intelligence artificielle pour déceler les cancers de la peau. Des chercheurs de Stanford se sont demandé si un algorithme apprenant pouvait faire aussi bien qu'un dermatologue pour détecter une tumeur. Ils ont donc entraîné leur logiciel avec plus de 130 000 photos de patients atteints de différentes formes de mélanome et ont ensuite testé leur machine contre 21 spécialistes humains, publiés dans la revue Nature. Les résultats sont impressionnants car le programme a fait aussi bien que la moyenne des 21 dermatologues. Une démonstration à la fois effrayante pour les futurs médecins mais encourageante d'un point de vue de l'accès au dépistage dans le monde entier. Étudier le microbiome intestinal des chiens pour lutter contre l'obésité canine, s'inspirant d'études reliant chez l'homme le déséquilibre microbien des intestins à de nombreuses maladies. Des chercheurs américains ont exploré cette piste chez les chiens. En comparant la flore intestinale en fonction de leur régime, ils ont constaté non seulement que l'alimentation influe lourdement l'état de cette flore, mais aussi que les chiens obèses sont les plus sensibles à ces changements. Cette publication apporte des espoirs dans la lutte contre l'obésité des chiens. Espoir d'autant plus grand qu'elle est épidémique aux États-Unis. Un animal de compagnie sur deux là-bas étant obèse ou en surpoids. Et puis le plancton empoisonné par le changement climatique, c'est la crainte des chercheurs suédois exprimée dans un article du journal Science Advances. Selon eux, le réchauffement climatique pourrait dangereusement favoriser dans les océans la production de bactéries aux dépens de celles des phytoplanctons. De plus, cette dérégulation du climat favoriserait l'augmentation des concentrations de méthylmercure dans les chaînes alimentaires des lacs et des océans. En effet, les changements climatiques accéléreraient le processus de production de cette neurotoxine qui se retrouve ensuite dans l'ensemble des organismes de l'océan et qui, pour certains, finissent dans nos assiettes.